C'est une alternance de soleil et nuages aujourd'hui. Parfois il fait beau, parfois il pleut, parfois c'est entre les deux, c'est ce qu'on nous dit. Mais ce soir, ça va être un ciel dégagé, un minimum de 6 degrés. Pour ce qui est de demain mardi, ça va être ensoleillé avec un max de 23. Mercredi, une belle journée ensoleillée avec un max de 27. Jeudi, des averses avec un maximum de 27 aussi. Et vendredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 22. Tranquillement, mais sûrement vers Cancun.
Ouais, ben là, Cancun, c'est pas aujourd'hui. As-tu vu, c'est tellement gris, foncé. Là-bas, ça tombe. Là-bas étant Beauport.
Là-bas, t'es bonne. Beauport.
Tu m'as tellement écœuré, je l'ai pratiqué.
Baie-Saint-Paul.
C'est ça.
Île d'Orléans.
Pis sinon, je peux te dire que sur Henri IV Nord, sortie boulevard Wilfrid Hamel, c'est partiellement entravé, il y a une panne.
OK.
Sachez-le. Félix Leclerc-Ouest, auteur de l'autoroute Laurentienne, voie de droite partiellement entravée aussi. Il y a une autre panne. Tout le monde est en panne ce temps-ci.
Ben oui, c'est la vie.
Mettez de l'essence.
C'est ce qu'ils disent. L'Ouest est où?
Attends un peu.
Vas-y. Là. T'es sûr?
Oui, parce que ça, c'est le nord, ça, c'est le sud, ça, c'est l'est, ça, c'est l'ouest. Moi, je viens de l'est. Mon père m'a tellement martelé qu'on venait de l'est. Si j'étais perdu à un moment donné quand les GPS n'existaient pas, parce que dans ma génération, les GPS sont apparus à un moment donné, ils n'existaient pas. En scooter, j'avais une carte routière que j'avais enlevée d'un annuaire. Oui, ouais. J'ai 31, ça, je l'ai vécu. Puis il me dit, si tu te perds, retourne tout le temps à l'est.
Moi, dans ma génération, c'est ce qu'il fallait faire. C'est regarder où le soleil se levait et où le soleil se couchait.
Non, ça va.
Dans ma génération, pour savoir...
Je sais que t'es l'homme des cavernes, mais là, à ce point-là... Là.
Dans ma génération, pour savoir il était quelle heure, il fallait que tu plantes un poteau là, à terre. Puis là, tu regardais par rapport au soleil.
T'as quel âge,
toi, capable
déjà?
De dire l'heure. Ben, je dis aux filles 25 ans, mais ça passe de moins en moins.
T'es désillusionné de A à Z. Ah,
faut arrêter de mentir. Florence Brouillard, qui est en studio, elle est présidente et directrice générale de Brouillard Communication. C'est drôle de la voir parce que je l'ai souvent entendu, Florence, que ce soit à la radio ou encore dans des podcasts. On te voit de plus en plus régulièrement à la télé aussi. Puis là, t'es avec nous autres pour venir jaser. Je te salue.
Je te salue, moi aussi.
Merci d'être là. Qu'est-ce qui fait que de plus en plus, tu acceptes de sortir dans les médias pour jaser placoter?
Parce que je me le fais demander. Puis oui. Je me suis un peu lancé le défi de presque toujours accepter quand je connais un peu le sujet dans un monde idéal.
Ouais.
Puis ben, c'est une roue qui tourne. Je veux pas, moi, je parle aux médias tout le temps de par mon métier pour un peu vendre mes clients à titre d'intervenant en entrevue. Puis à force de leur parler... J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est devenu naturel pour eux de me dire « Hey, pour tel sujet, tel enjeu de crise, d'image publique, décortiquer aussi de la communication. En politique, il y en a aussi pas mal. Puis bon, ben je le fais une fois, deux fois, trois fois. Puis là, je le fais régulièrement et j'adore ça.
Mais parce que tu le fais avec tes clients. Exact. Ça, c'est ce que tu fais avec tes clients, ce que tu vas faire avec nous.
Exact. Exactement. Je le fais avec mes clients. Puis il faut dire que moi, j'accompagne aussi très régulièrement mes clients quand ils font des entrevues. Je les coach avant parce que, bon, plus souvent qu'autrement, c'est des entrepreneurs. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Fait que je les accompagne en studio. Fait que force est d'admettre que je développe des relations privilégiées aussi avec les journalistes, quels qu'ils soient, les animateurs, puis peu importe c'est où dans la province. Fait que ça crée aussi une connexion. J'ai de la facilité à m'exprimer. Donc, je pense que c'est un tout. Ça fait que j'accepte, puis j'aime ça. C'est le fun.
C'est loin dans ma jeunesse, mais moi, je me souviens, parce que Brouillard, c'est une entreprise familiale. Là, maintenant, Brouillard, ça t'appartient. C'est toi qui as pris les rênes. Mais je me souviens de ton père à la radio. Puis par la suite, j'ai entendu parler de ton père avec Brouillard Communication. Toi, c'est le contraire. T'as pris Brouillard Communication, puis après ça, t'es arrivé dans les médias.
C'est drôle que tu dises ça, parce que j'avais la discussion avec mon père comme il y a 10 jours, puis on faisait exactement ce parallèle-là. T'sais, mon père... A été journaliste dans tellement de stations. Il a fait de la télé, de la radio, des médias écrits, etc. Puis à un moment donné, ben, vous le savez, j'ai pas besoin de vous parler de votre job, ça peut être précaire. Oui. Puis à un moment donné, il est entre deux jobs. Puis il y a eu une demande pour aider à organiser un événement, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis il s'est créé un métier de relationniste comme ça parce qu'il avait plein de contacts, parce qu'il était chanceux, lui. À l'époque, il avait travaillé dans presque toutes les familles médiatiques. Mais moi, c'est comme étrangement un peu l'inverse. Puis même récemment, quelqu'un me disait, tu voudrais-tu lâcher ta job chez Brouillard? Mais là, je suis comme, non, je lâche pas ma job.
L'entreprise.
Lâcher mon entreprise pour aller faire du média, non. Mais je trouve que c'est intéressant. En ce moment, je fais un peu des deux. Écoute, c'est 4 % de mon pourcentage de temps, mettons, que je prends dans le média.
Ouais.
Mais j'aime ça. Puis savez-vous quoi? Ça m'oblige à... Tu sais, je fais la même job quand même depuis presque 15 ans. Mon métier évolue. Oui, mais il reste que ça reste des relations publiques, des relations de presse. Tandis que là, quand je m'en vais dans les médias, je parle de sujets toujours super différents. Fait que j'apprends tellement à vitesse grand V sur plein de sujets. Puis ça, c'est le fun. J'ai un peu l'impression de retourner à l'école.
Ouais, c'est le fun. Puis en plus, ça te fait découvrir d'autres choses aussi. Là.
Ouais.
Est-ce que, bon, ton père, il était là pendant des décennies et des décennies. Quand il t'a vu sortir des médias, y a-tu fait le Jean Brouillard? Est-ce qu'il a essayé de t'épauler?
Ben oui.
Y a-tu dit, OK, papa, là, je suis sorti du nid, je suis capable de voler seul?
Ben, quand il m'a vu surtout dans les médias, en fait, c'est lui qui me poussait beaucoup parce qu'il trouvait que j'avais un potentiel. T'sais, la première fois que j'ai été interpellée dans les médias, puis ça a été une grosse fois, c'était une lettre ouverte qui n'était pas une lettre ouverte au départ. C'est un post que j'ai fait, je ne sais plus sur quelle plateforme, probablement sur Instagram à l'époque, pendant la pandémie, puis ça s'est ramassé en lettre ouverte dans Le Devoir. Je pense en Québécois aussi, c'est assez rare qu'ils reprennent la même lettre ouverte. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, dans mon métier, on le sait, parce que c'est souvent des primeurs. Pas des primeurs, mais des exclus. Puis finalement, je me suis ramassée à LCN, je me suis ramassée à faire plein de médias. Puis mon père, au contraire, était super content pour moi, puis il m'a toujours bien coachée, et il le fait encore. T'sais, à toutes les fois que je fais une entrevue, surtout à la télé, il m'écoute. Puis il me regarde, puis il m'enregistre, puis il me parle de mes bons coups, mes moins bons coups.
Donc, on salue ton père en ce moment. Il y a un risque qu'il soit à l'écoute.
Probablement, exactement.
Il y a le débrief du père.
Ah, tout le temps. Mais c'est extraordinaire. C'est un peu challengeant. Ouais. Mais ça fait que je m'améliore parce que c'est pas ma job. Là. Vous avez probablement étudié là-dedans ou du moins vous vous êtes perfectionné. C'est votre métier. Moi, en plus, c'est embêtant parce que je coach des gens à faire ça.
OK, mais t'es pas de la même génération que ton père. Donc, la façon de faire le média a changé. La manière de l'interpréter a changé. L'auditoire a changé. Et puis, la même génération que lorsque ton père parlait à la radio, on parle plus aux mêmes gens, ou presque. Là. Est-ce que ça, c'est un choc de génération? Parfois, tu dis, « Hey, papa, j'entends tes conseils, sauf que je l'appliquerai pas pour cette raison-là. »
C'est intéressant, mais pas tant que ça, je te dirais. Pour ça, mon père, j'ai travaillé avec mon père, tu sais, comme presque 10-12 ans, comme très proche et très serré. Puis j'ai un certain respect du cadre aussi. Tu sais, je ne parle pas à la Radio-Canada, mais je sacque pas non plus en ondes. Tu sais, dans le sens où il y a pas grand-chose où je fais attention. Tu sais, fait que pas tant que ça. Je te dirais que c'est plus, en fait, ce qui est très drôle, où mon père me reprend, c'est qu'il me trouve pas assez PR. Il voudrait que je plug plus nos clients, que je plug plus mes réalisations, qu'il y ait toujours mon logo en arrière.
Ah, c'est-tu quoi, nous autres, on aime ça, que ça soit pas comme ça, ben, tant que ça?
Potentiellement, mais tu sais, ben c'est normal parce qu'en même temps, c'est ce que je me dis, mais il est comme oui, mais c'est ton métier. Fait que ça, je le prends peut-être un peu plus avec un grain de sel, mais c'est intéressant parce qu'il applique, si on veut, des conseils très relations de presse, relations publiques, à moi de qui c'est le métier, mais je le vois un peu séparément. C'est Florence, puis c'est pas Brouillard qui est ici avec vous, mettons.
De plus en plus de propriétaires d'entreprises, hommes comme femmes, décident de sortir sur les réseaux sociaux pour parler de leur quotidien, pour parler de sujets qui les intéressent. Moi, j'adore ça. Par contre, il y a une génération qui regarde ça en disant « Oh, tabarouette, tu devrais peut-être plus te concentrer sur ton entreprise que pour les réseaux sociaux. » C'est vraiment générationnel, ça, Florence. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne comme toi décide de sortir comme ça sur les réseaux sociaux, de se livrer par ses bons coups, puis ce que j'adore aussi, les mauvais coups? Mm-hmm. Tu sais, quand une entreprise connaît certaines difficultés, puis c'est pas le cas de Brouillard, vous avez le vent dans les voiles, mais quand une entreprise connaît certaines difficultés, de voir que la personne sort rapidement sur ses réseaux sociaux, puis dire « Voici ce qui s'est passé en fin de semaine, puis voici ce qu'on a appris. »
Le contrôle du message.
Le contrôle du message et tout ça. Je trouve ça formidable, mais est-ce que c'est générationnel? Ça se faisait-tu autrement dans le temps?
Ça se faisait pas, d'abord, non. Du tout. Puis je tiens à le dire, là, la discussion qu'on a là, moi, c'est un « ongoing process », c'est-à-dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas ce que j'aurais dit hier, parce que j'ai réfléchi beaucoup, puis je me fais beaucoup poser la question. Puis honnêtement, la réponse est pas si simple. Moi, je le fais naturellement, fait que j'ai toujours été comme mon premier cobaye. Puis je l'ai faite naturellement parce que ça me tentait. Puis honnêtement, j'ai vu des résultats positifs. C'est-à-dire d'utiliser mes plateformes sociales, quelles qu'elles soient. Fait qu'on peut parler de LinkedIn, Facebook, Instagram, pour me livrer de façon relativement vulnérable. Puis je le vois parce que je me fais poser beaucoup de questions par rapport à ça. Ça intrigue. Puis c'était tellement naturel que je trouvais pas vraiment de réponse. Pour finalement un petit peu plus réfléchir, puis là, je suis vraiment rendue à cette étape-là. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup d'analyses et j'offre un service de développement de marque personnelle pour les dirigeants, pour les gestionnaires, qui me permet aussi de comparer les gens. Et au départ, je les comparais quasiment plus homme-femme. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ouais, non, là, c'est pas ça ta comparaison, Florence. » Puis la comparaison repose beaucoup plus sur de quelle génération ils sont issus, comment ils se sont fait endoctriner dans leur image personnelle, qu'ils soient dirigeants ou pas. Puis tu viens de le dire, puis ça m'a allumé une lumière, je veux dire les parents de mes amis. Fait que ce soit des boomers ou des X, ça dépend, peut-être les plus vieux X, ils vont avoir une certaine réserve quand ils voient que leurs enfants, peu importe, leurs employés se mettent de l'avant sur les plateformes sociales parce qu'ils ont l'impression que c'est automatiquement au détriment du vrai travail. Puis quand tu regardes la plus jeune génération, on oublie les alphas, ils sont trop jeunes, évidemment. Fait que la génération, je suis tellement pas bonne dans mes générations Z, fait que le 97 à 2010-12 à peu près, eux le font très naturellement. Eux sont nés là, avec un téléphone intelligent dans les mains. Ils avaient 5-6 ans, Facebook partait. Ils ont toujours connu presque TikTok depuis qu'ils sont allumés. Ils sont habitués de voir des visages qui parlent. Ils sont habitués de voir de la vulnérabilité en temps réel sur les réseaux sociaux. De voir des gens pleurer sur TikTok, c'est monnaie courante.
Tandis que peut-être la barrière entre la génération juste avant eux, c'est oui, on a appris à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux, mais le côté vulnérable, le côté d'échec est plus difficile.
Nous, on est, admettons, notre génération, qui est la génération des milléniaux, la génération Y, eux, on est beaucoup plus dans un cadre où il y a de la perfection, où on le contrôle. On comprend pourquoi il faut le faire, mais on est comme pogné encore avec les espèces de vieux paradigmes.
Un peu de gêne,
de fausse humilité ou de vraie humilité parfois. Puis il y a vraiment... ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a tellement une explosion des canaux puis une omniprésence des visages qu'on observe que donc... des X puis des boomers, parce qu'ils ont des équipes plus jeunes, plus dynamiques, voient ce qui se passe chez les milléniaux puis les Z et disent, c'est ça les tendances, il faut que tu le fasses. Puis là, c'est là qu'on observe des fois une genre de... Je parlerai pas de dichotomie, mais un malaise, en fait, parce qu'on constate qu'il y a des gens qui sont mis devant la caméra, ils devraient peut-être pas être mis devant la caméra, c'est pas la bonne personne. Des fois, ça fait du bon show, c'est drôle.
T'as-tu des noms, ben?
Ben moi, j'ai Sonia Lebel en tête, une femme extrêmement brillante qui nous a offert la commission Charbonneau comme étant une des étoiles, en fait, pendant les interrogatoires, la force de la femme, un pedigree, un CV étoffé. Quand elle est arrivée sur Instagram, j'ai eu un malaise, je me suis dit « Oh non! » Pas la crédibilité de ma Sonia Lebel qui se met à danser, puis tout ça. Puis moi, c'est une personnalité politique que j'apprécie, puis je vivais un malaise. Je me disais, est-ce qu'elle le fait bien?
Mais la politique, c'est peut-être différent. Ouais, c'est intéressant comme angle.
Ouais.
Mais je parce que, tu sais, l'être humain apprend par mimétisme. Tous les entrepreneurs, hommes comme femmes, ont appris. Tu sais, oui, il y a l'école et tout ça, mais en bout de ligne, quand tu arrives directement en théâtre de guerre, c'est là que tu apprends en regardant les bons coups et les mauvais coups des autres. Puis les réseaux sociaux, quand tu parles de vulnérabilité, c'est les moins bons coups, ça permet aux gens qui sont en entreprise de regarder, OK, lui a fait ça, voici ce qui est arrivé, voici comment il s'en est sorti, puis ça a fonctionné. Ça aide beaucoup le monde.
Absolument, puis à l'inverse, c'est aussi vrai. Ce qui fait que les générations plus vieilles vont adopter cette tendance-là, c'est par mimétisme aussi. Parce qu'ils voient que... Puis ils voient pas nécessairement que c'est bon, mais ils voient que les autres le font. Puis moi, en ce moment, honnêtement, j'offre un service en développement de marque personnelle depuis un an et demi, là, beaucoup. J'en fais des nouveaux à toutes les semaines.
C'est jeune.
Je le fais énormément. Pas nécessairement, parce que ce que je constate, c'est
mais
que...
Mais c'est jeune comme service.
C'est jeune comme service, oui. Mais les gens qui nous interpellent, excuse-moi, j'avais mal compris, c'est qu'eux, ils comprennent qu'ils ont besoin de coaching. Fait que je te dirais qu'on est pas mal plus dans le 35-55. Ça, c'est super intéressant. En haut de ça, ils veulent rien savoir. En bas de ça, ils pensent qu'ils sont capables tout seuls. Puis les deux ne sont pas bons et pas vrais, mais tu sais, on rentrera pas nécessairement là. Mais ils apprennent par mimétisme, puis c'est intéressant ce que tu nommes parce que on constate qu'il y a des gens qui veulent vraiment, mais ils sont pas la bonne personne. Puis c'est pour ça que le développement de marque personnelle, c'est pas pour automatiquement que tu sois la personne qui danse sur TikTok. Idéalement même, c'est pour que tu te rendes compte que tu n'es pas la bonne personne, qu'on fait ce processus-là ensemble. Mais tu sais, c'est un processus compliqué, puis tout le monde n'a pas toujours les ressources. Mais c'est vraiment intéressant de constater aussi pourquoi les jeunes font ça, puis pourquoi les jeunes sont portés vers cette... Parce que la base de ma réflexion là, que j'ai partagée sur LinkedIn plus tôt aujourd'hui, c'était l'espèce d'individualisme qui caractérise les générations plus jeunes, puis comment il se manifeste, puis est-ce que cette manifestation-là sur les réseaux sociaux va à l'encontre d'un esprit de communauté. Puis si on observe la génération alpha, qui sont les plus jeunes, au contraire, pour eux, l'esprit de communauté est super présent. Tu sais, leur bataille sociale, c'est les batailles qui touchent tout le monde, c'est le climat.
Bien, c'est essentiel parce qu'ils sont encore plus en interactivité sur leurs réseaux sociaux que dans la vraie vie. Puis on voit ce courant-là. Tu sais, c'est même une problématique à certains niveaux.
Absolument.
Mais dans ton message que tu as positionné, autant sur LinkedIn que sur ton Facebook personnel, tu le dis, parler de soi publiquement, ça vient pas naturellement à tout le monde, mais construire son image, ça touche plus que les communications. Puis souvent, on a dit qu'en entreprise, de trop la rendre personnelle à toi, à Florence Brouillard, par exemple, que Brouillard soit toi, après, quand tu veux la vendre, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que là, toi, si tu quittes ton entreprise, perd des...
Parle-moi-en. J'ai acheté une entreprise de service qui portait le nom de mon père. I know shit. Mais tu as tout à fait raison. Puis tu vois, mais ça, c'est deux choses. Quand nous, on fait du personal branding pour nos clients, souvent aussi, c'est dans une démarche d'accompagnement en continu pour leur business. Puis on est très, très clair dans tous les plans qu'on fait. Tu n'es pas ton entreprise et ton entreprise n'est pas toi. Et donc, si tu décides de prendre la parole publiquement en tant que CEO, gestionnaire, peu importe, tu ne peux pas avoir exactement le même discours que ton entreprise.
Il faut que tu fasses attention.
Il faut que tu sois cohérent.
On a vu un Salvatore de ce monde faire une polémique dans les derniers mois parce qu'il y a un des frères de l'entreprise qui a dit des propos qui ont été interprétés d'une manière. Ça fait boule de neige. Puis là, après ça, tous les franchisés des Salvatore ont un peu payé l'impact de ces paroles-là. C'est complexe aussi prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux quand tu n'as pas de contrôle où ça va aller, comment ça va être interprété, puis surtout qu'il y a des gens en dessous de toi. C'est toute une technique. Puis tu avais devant toi quelque chose de super intéressant dont on a parlé hors d'onde. Yann, elle a toutes les générations. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent et s'attendent à quoi? Des réseaux sociaux, par exemple, ou de la société en général. Je sais pas si Florence voulait aller là, mais
oui,
ça m'a fascinée.
Mais c'est vraiment intéressant, en fait, parce que quand j'ai fait ma publication ce matin, rapidement, les gens de chez Léger m'ont écrit puis m'ont envoyé quelques documents que j'ai pu éplucher rapidement ce matin. Parce que moi, je partais, ma prémisse, c'était mes observations. Donc, tu sais, je disais pas, j'ai la science infuse, j'ai la vérité, mais voici sur le terrain, puis je suis une des seules entreprises au Québec qui offre ce service-là. Donc, je suis bien placée pour l'analyser. Puis nous, on garde tout le data de nos formations. Tous les mots sont gardés, puis tu sais, on l'analyse parce que c'est un service qu'on est en train de développer, tu sais. Donc, c'est super important. Puis, dès que j'ai publié, ils m'ont envoyé des documents, notamment le Code Québec et un autre document sur les ilénarios, fait que le mélange des Z et des Y. Puis, effectivement, tu sais, c'est quoi leur contexte, puis en quoi le contexte influence leurs valeurs de base, leurs comportements clés, leurs besoins essentiels. Puis, tu sais, on voit, c'est sûr que c'est des grandes généralités, là. Mm-hmm. Naturellement, c'est des grandes généralités. Puis, la façon dont... En fait, moi, je vais aller plus loin, je te dirais. Je vous donne un exemple. Les milléniaux, besoin essentiel, encouragement. Alors que les Z, besoin essentiel, égalité. Puis les alpha, ce serait être assuré. Puis si on parle des X, ce serait de la résilience. Puis les boomers, ce serait l'implication. Mais tout ça fait bien du sens. Mais ce qui est encore plus intéressant, je pense, c'est qu'au-delà de ces... appelons-les...
orientations-là.
Ouais, ces orientations-là. C'est que maintenant, on a tellement une caméra braqué sur tout le monde en tout temps, qu'on est, tu sais, tantôt tu parlais de mimétisme, Yann, on est de plus en plus influencé par la génération en dessous de nous, tout le temps, et l'autre en dessous de nous. Et donc, j'ai l'impression que mon feeling, puis tu sais, je parle 100% à travers mon chapeau, mais ça ferait vraiment du sens, c'est comme si ce qu'on appelle les générations vont comme être plus courtes, parce que ça va tellement débouler plus vite.
Ben, c'est clair.
On va juste trop changer trop vite parce que pour que mamie soit rendue sur TikTok, là, t'as pas de louette. Tu sais, je veux dire, c'est comme les deux extrêmes. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est normal parce que mamie est en contact avec Alpha. Puis elle n'est pas juste en contact quand elle voit le dimanche, là. Elle est en contact tout le temps.
La question que je veux te poser, Florence Brouillard, parce que je savais qu'on allait parler de ce sujet-là, c'est concrètement, je ne vendrai aucun punch, là, mais pour un homme et une femme d'affaires, de se présenter sur les réseaux sociaux, faut que ça revienne aussi, la balle. Tu sais. Est-ce que c'est payant de se présenter sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont quelque chose à vendre? Tu sais? Puis des fois, on voit des psychologues qui parlent d'un sujet X, mais en bout de ligne, tu sais, c'est Dr. Tremblay, psychologue. Tu sais, donc, ils veulent se mettre de l'avant, mais aussi parler de leur cabinet. Mm-hmm. Concrètement, en vente, est-ce que ça paraît quand les familles se mettent de l'avant?
Je te dirais, moi, ce que j'observe, c'est que oui. Mais c'est pas n'importe quand. En fait, il faut que tu aies une stratégie, aussi simplement que ça. Si tu le fais bien, tu es bien épaulé, tu as un bon message, tu es cohérent, tu as une stratégie, puis tu rebondis pas sur n'importe quoi, ultra payant. J'en suis la preuve vivante et tous mes clients le sont. Mais juste mettre ta face puis te dire n'importe quoi, non. Puis tu pourras pas le calculer. Comment tu vas calculer tes KPI? Tu sais pas. C'est à chaque fois que tu poses, moi, je te le confirme. Puis ce qui est intéressant, par exemple, c'est aussi, par exemple, dans mon cas, je vais prendre mon exemple pour pas nécessairement parler de mes clients parce qu'ils le voudraient peut-être pas. Mais, tu sais, moi, j'attire maintenant une nouvelle clientèle qui est très intéressante, qui est intéressée par cette vérité-là, par aller un petit peu plus loin dans la communication, par se mettre de l'avant, mais tout en nuance puis en finesse, puis pas juste se mettre la grosse face sur les réseaux sociaux puis dire « Viens manger mon dog, il est à deux fois moins cher. » Tu sais, c'est pas là qu'on va partout. Si vous me lisez, moi, vous verrez, je parle de ma business, mais je parle pas de ma business parce que, honnêtement, c'est pas ça qui intéresse les gens. Il y en a qui le font, ils le font bien. Moi, je trouve que c'est excessivement redondant. Tant mieux si ça génère des ventes. Puis ça dépend c'est quoi ton produit. Tu sais, Salvatore, là, ils vendent de la nourriture. Ça coûte pas cher. Moi, je vends du service qui coûte cher.
Ils vendent de la nourriture et des franchises.
On est d'accord. Fait que t'as raison, ils ont deux publics différents.
Exact.
Mais c'est justement, faut que tu détermines c'est quoi ton produit à vendre qui est sous-jacent et donc c'est quoi le ton qu'il faut que tu développes pour rejoindre ces publics-là. Je vous le dis, ça prend vraiment une stratégie. C'est vraiment pas juste je vais faire des vidéos puis je vais faire un balado sur le site. Toutes les entreprises, ça part un balado filmé en ce moment. C'est super cute, là, mais c'est pas idéal. C'est beaucoup de temps et d'énergie pour te mettre en scène parce que tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses puis tu penses que tu as quelque chose à dire. Ça rapporte-tu? Je penserais pas.
On a un mélange de générations en ce moment sur le marché du travail. On va l'avoir encore pour un bout. Il y a des gens qui vont partir moins rapidement à la retraite avec le contexte économique. Il y a des jeunes qui vont rentrer plus tard aussi, donc ils vont se côtoyer peut-être au début de leur carrière puis à la fin de leur carrière. Le clash est immense, c'est déjà commencé. Comment est-ce qu'on fait pour rallier les deux puis faire en sorte qu'ils se parlent dans cette connectivité-là? Parce que T'sais, on le voit, il y a l'usage personnel qui peut être aussi positif que déficitaire. On a vu la semaine passée dans les nouvelles beaucoup de dépression. Ça a été, ça a été sondé puis exploité dans une étude américaine. Mais sur le milieu du travail, justement, nous autres, on est tout le temps sur nos cellulaires. La communication fait qu'on doit avoir les notifications des nouvelles, voir ce qui se passe sur les spotettes de ce monde, voir les nouvelles tendances, parler à des gens, lire des statuts pour se faire une idée, pour se créer nos opinions, puis être capable d'avoir une conversation. Ça, je pense que c'est acquis. Par contre, dans une entreprise de finance, dans une entreprise où un peu plus vieux jeu, le jeune qui va être sur son cellulaire va dire « Hey, c'est pour la job, je te jure. » Ça va se coltailler. Comment est-ce qu'on... On fait en sorte que ce soit homogène, ce mélange-là, des générations?
C'est une bonne question. À mon sens, moi, c'est la responsabilité des RH d'une entreprise, puis des valeurs, puis de la culture, des business, de probablement nommer ça. Puis tu sais, ces éléments-là sont un peu pris pour acquis, puis ils ne devraient pas l'être. C'est une immense... Vous le savez comme moi, là, vous les avez, les stats de comment vous checkez votre sel par jour. Là. On aime mieux les regarder vite, 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 parce que... Ouais, c'est bien moi non plus, parce que c'est vraiment décourageant. Non, mais soyons honnêtes, puis on se dit qu'on n'est pas influencé parce qu'on voit... On est influencé constamment. Puis tu sais, nous, dans nos métiers, on a besoin de toute cette information-là. Mais à mon sens, les entreprises devraient vraiment faire le point, que ce soit une à deux fois par année, au-delà d'avoir une étiquette sur leur présence, la présence digitale de l'entreprise, mais comment les employés doivent utiliser ou peuvent utiliser ces plateformes-là, puis peut-être même les sensibiliser à voici à quoi ressemble notre bassin de salariés et qu'est-ce que ça représente leur personnalité sur les plateformes sociales selon leur âge. Et donc, ne vous... Parce que moi, ça, je l'entends beaucoup, une telle fait ci, mais oui, mais vous avez 25 ans de différence. C'est normal que vous ne gérez pas ça de la même façon. Puis c'est presque aussi important que ce que vous faites la fin de semaine.
C'est la pluralité de tout ça qui va faire en sorte que ça va rouler de façon plus moderne, peut-être
exact.
Aussi.
Exact. Mais ça, je pense que ce n'est pas encore acquis dans les business. Puis honnêtement, j'y avais jamais pensé. Mais j'ai l'impression que ça va devoir de... Tu sais, il a commencé à avoir dans certains médias des chroniques sur l'éducation numérique. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on le balayait un peu sous le tapis, mais c'est essentiel. Je veux dire, on passe nos vies là-dessus. Fait que l'éducation sur les réseaux sociaux, l'éducation numérique, comment on l'utilise, qu'est-ce que ça représente. Puis, tu sais, quelqu'un pourrait me challenger puis dire, ouais, mais je veux pas nécessairement savoir ce que mon collègue fait la fin de semaine parce que j'ai pas à le savoir, c'est sa vie privée. Je comprends, mais si vous êtes amis sur les plateformes sociales puis il publie, puis tu le vois, puis ça change la dynamique. On est rendu dans un autre niveau de relation. Mmh. On a des relations numériques plus importantes que nos relations personnelles et professionnelles qui prennent plus de place dans nos vies. Fait qu'on peut faire fi de ça. Mais je vous donne un petit exemple banal. Pascal, tu le sais, j'ai perdu mon compte Instagram dans les deux derniers mois. Okay? Il s'est verrouillé de l'intérieur. Le pourquoi n'est pas important.
L'idée de mettre de la porn sur Instagram...
jamais de bonne idée, Florence. Bonne affaire, on Florence. Va être là pour te conseiller.
J'adore! Ce que j'allais dire, c'est donc, j'avais plus accès, puis moi, je l'utilisais beaucoup.
Ouais.
Et le temps que j'ai sauvé dans ma vie, puis pas juste le temps à scroller, là, parce que le temps qu'on pense inconsciemment à repenser à ce qu'on a vu... Là, puis là, c'est la photo d'une telle, puis la place d'une telle. Puis là, toi, t'as demandé, t'es parti en voyage tout seul. Puis là, moi, je pense, après ça, coucher dans le... Pourquoi elle est partie en voyage tout seul? Puis où c'est qu'elle était, donc? Puis j'ai pas... Maudit, viens écrire demain. Niaiserie, là, mais on est tous de même, là. Tu sais, puis c'est tellement du temps.
Ouais.
Fait que c'est pas vrai qu'on n'a pas besoin d'être encadré. On en a besoin.
Florence Brouillard, j'aurais pris 2 heures avec toi.
Les auditeurs sont très intéressés.
Il va falloir que tu reviennes à un moment donné.
Ben, un moment donné.
Ben oui, on va te partager entre ici et ton bureau. On salue les gens de Brouillard Communication. C'est un plaisir de te rencontrer pour une première fois, puis en espérant que ce ne sera pas la dernière. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. En fait, tu n'as pas besoin de chance. Ça va super bien, tes affaires.
Ça va bien. C'est un roller coaster, mais ça va bien.
Allez, mal à jupe, on vous pousse ça dans les oreilles pour les prochaines secondes et on revient tout de suite avec Pascal.